France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Il y a la comédie musicale, il y a l'opéra, il y a le rock, et puis il y a l'opéra rock. Un spectacle total dont le style musical perclus de guitares, de basses électriques, de rythmiques profondes permet souvent de raconter des histoires de mondes futuristes, parfois post-apocalyptiques, totalitaires, dangereux, avec des peuples persécutés ou opprimés, qui tentent d'échapper aux contraintes technologiques, avec des menaces écologiques qui planent et les manipulations du pouvoir. Aujourd'hui, on va passer l'heure avec l'un des meilleurs spécialistes de la comédie musicale en France. Bonjour Gélry.
Bonjour Laurent Vallière.
Longtemps prof dans les écoles de comédie musicale comme la ICOM et auteur de deux ouvrages dont l'un vient de paraître, Opéra Rock, Mensonges et Vérités. On va explorer ce terme très particulier, l'opéra rock. Je disais que très souvent il parlait de monde futuriste, mais pas toujours. Et c'est une œuvre que vous mettez vraiment en exergue dans votre livre. Il y a une œuvre qui va bousculer le genre en 1996, inspirée de la bohème de Puccini, l'histoire de jeunes, au temps de l'épidémie de sida et de chômage, et de loyers toujours plus élevés. C'était Rent de Jonathan Larson.
You're not alone.
Adam, Pascal, Roger, Anthony, Rapp et Marc, deux jeunes New-Yorkais fauchés qui viennent de voir leur amie Angel décédée du sida alors qu'une autre amie, Mimi, est bien malade. On meurt en Amérique, c'est le thème de cette chanson désespérée en 1996 dans Rent. Votre premier choix, Gellery. Pourquoi Rent, cette comédie musicale de Jonathan Larson, est si importante dans l'histoire de l'opéra rock ?
Je pense que c'est parce que, pour la première fois, un jeune auteur a décidé d'aller jusqu'au bout, sans tenir compte spécialement des contraintes commerciales, le besoin de faire un single, etc. Quelqu'un de possédé, et il avait raison d'être possédé par ses idées, puisque ça a duré très peu de temps, puisqu'il est mort le jour de la première avant-première, off-Broadway, c'est quand même terrible. Mais son ouvrage a réussi à rassembler les générations. Même les adultes habitués au musical traditionnel ne se sont pas détournés de Rent. C'est un show que les gens voient, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour la France et pour les pays d'Europe de l'Est, apparemment, mais ils n'ont pas essayé non plus, ils n'ont pas pris le risque encore.
Est-ce que c'est le premier dans l'histoire de l'opéra rock ?
Ah non, ce n'est pas le premier.
Alors, qu'est-ce qu'il a d'important, celui-là, par rapport aux autres ? Là, en l'occurrence, on peut dire que Jonathan Larson est vraiment dans la lignée de l'opéra. En quoi il est dans la lignée de l'opéra lorsqu'il crée cette comédie musicale ?
Il est dans la lignée de l'opéra parce que rien ne l'arrête pour raconter son histoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier des contraintes de la rock music, des contraintes des groupes. Les groupes, il fallait que le public soit satisfait. Larson, ce n'était pas du tout son univers. Il écrivait seul, c'était un solitaire, et donc il avait cette grande liberté.
Et il faisait chanter chacun de ses personnages. C'est ce qu'on découvre, et c'est ce que j'ai appris à travers votre essai, c'est qu'en fait, au départ, l'opéra rock, ça naît par des groupes de rock. Au départ, ce sont eux qui créent des concept albums. En 67, le premier concept album officiel, vous l'expliquez, c'est The Story of Simon Simopas, par le groupe psychédélique Nirvana. Et puis le vrai départ, c'est les Who, Pete Townshend, en 1969, avec Tommy. Qu'est-ce que cet album a de plus que les autres ? Alors, est-ce que c'est lui qui donne le départ de cette histoire de l'opéra rock ?
À mon avis, oui. Le véritable classique d'opéra rock au départ, c'est Tommy, indiscutablement. Et tout ce qui est venu après a été mesuré à Tommy. Même les débuts de Lloyd Webber.
Même les débuts d'Andrew Lloyd Webber, vous avez dit.
Andrew Lloyd Webber a commencé à la manière franco-pop genre, c'est-à-dire les chansons closes, chaque scène l'une après l'autre. On sentait encore les variétés derrière.
Des chansons qui s'enfilaient les unes après les autres. Tandis que là, Tommy, qu'est-ce que c'est par
Tommy,
rapport...
Tommy, il a traité en effet comme un opéra véritable, un peu ce que fera Larson après. Ça l'intéressait, Peter Townshend. Ça l'intéressait totalement de quitter l'univers du groupe pour faire autre chose. Il pensait qu'au lieu de se limiter à la rock music traditionnelle pour le jeune public, il y avait autre chose à défendre. On pouvait aussi intégrer cette nouvelle musique, ces nouvelles idées, dans un récit lyrique véritablement construit, où ce ne serait pas une suite de chansons closes, mais véritablement un mélange d'air, de duo, d'ensemble, de récitatif. Et ça, c'est la première fois qu'on a osé le faire. Et c'est la première fois que le succès a été au rendez-vous. À tel point que les gens n'y croyaient pas, disaient « mais c'est pas possible, c'est pas vraiment le travail d'un groupe, c'est quelque chose de différent ». Oui, c'est quelque chose de différent. Et il a eu raison de se battre pour ça.
Et ça a même été mis en scène, donc ensuite à Broadway, notamment en 1993.
Oui, très
Alors,
tard.
Alors, de quoi ça parle d'ailleurs, Tommy ?
C'est une histoire sinistre mais intéressante sur un enfant très très jeune qui est témoin d'un assassinat.
Et il devient en fait un peu autiste, cet enfant, c'est son parcours
totalement,
qu'on va...
Il est totalement plus qu'autiste, il est muet, aveugle, c'est complet. Hein.
Et donc c'est son parcours qu'on va suivre, sauf qu'à un moment, à la fin du premier acte, on découvre par contre que en fait, c'est un roi du flipper.
Oui, un roi du flipper. Là, au final du 1, il est adolescent et on s'aperçoit que vraiment c'est un génie dont on ne comprend pas l'origine du tout. Il est considéré un peu comme un gourou. Et ça va être encore pire lorsqu'il aura retrouvé toutes ses facultés, parce qu'il perdra son handicap au deuxième acte. Il ne comprendra pas pourquoi on ne le traite pas normalement et pourquoi on l'oblige à acquérir une dimension qu'il n'a pas envie du tout d'endosser. Il veut une vie beaucoup plus simple.
Vous pouvez nous raconter donc ce qui va se passer dans ce numéro qu'on va entendre, Pinball Wizard ?
C'est Tommy qui continue à explorer le domaine du flipper et qui devient véritablement imbattable. Et son cousin, Kevin, se dispute avec les autres personnes du quartier pour dire « mais tu n'aimes pas ce qu'il fait, c'est extraordinaire, oui mais je ne comprends pas d'où ça vient ». C'est une grande tension qui se crée entre les personnages. et qui laisse augurer un deuxième acte très nouveau par rapport au premier. Le premier est axé sur le handicap, sur la médecine, sur les tentatives pour sauver Tommy. Le deuxième acte, ça va être Tommy libéré, mais libéré face à la foule, face à la célébrité. Ça prend une nouvelle ampleur. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid soon plays a mean pinball. He stands like a statue, like a part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. My intuition, the digit counts up small. That deaf, dumb and blind kid soon plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a suffering. How do you think he does it? So good. He's got no distractions. Can't hear those bubbles and bells. Don't see no lights flashing. He pays by sense of smell. Always gets the replay and never tunes it all. That deaf, dumb and blind kid so plays a mean pinball.
You have set them on fire. inside, and they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began, no talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way, and they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, you're famous and should have stayed a great unknown, like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarmed. Listen, Jesus, do you care for your race? Can't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowds, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far, if we go too far. Listen, Jesus, to this warning I give. Please remember that I want us to live. But it's so sad to see our chances weakening with every hour. All your followers are blind, too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. This is all, it's gone sour.
Autre opéra rock, Jésus-Christ Superstar, créé à Broadway en 1971, c'était Ben Vereen dans le rôle de Judas. Les derniers jours de la vie du Christ, raconté par Andrew Lloyd Webber et Tim Rice. C'est un opéra rock, ça on peut le dire. Gélery, vous qui avez écrit cet essai intitulé Opéra rock, mensonge et vérité, qui en gros, vous êtes en train de, dans ce livre, de raconter ça, c'est de l'opéra rock ou pas. En l'occurrence, ça, Jésus-Christ Superstar en 71.
Oui, Jésus-Christ Superstar, on ne peut pas le nier. C'est un opéra rock comportant encore des lacunes et des erreurs que Lloyd Webber ne fera plus par la suite, c'est-à-dire perdre le côté, les restrictions que suppose un assemblage de chansons. Alors que de toute évidence, Lloyd Webber est un dramaturge, et Tim Rice aussi, et ils vont très vite se débarrasser de ces contraintes pour traiter beaucoup plus librement un sujet en musique.
Mais ils vont rajouter dans Evita des récitatifs, des choses comme ça.
Ah oui, Evita est beaucoup plus lyrique, au point de vue lyrique, et ouais. beaucoup plus important. Il y a un côté encore très limité dans la conception de Jésus-Christ Superstar. C'était très nouveau. Un jeune public était attiré par le musical à un moment où le musical classique commençait à s'écrouler. Et puis, il y avait une grande nouveauté, un grand scandale aussi, c'était la présentation des personnages. Jésus-Christ Superstar, la vedette, c'est Judas. Ouais. Judas qui n'est pas vu comme un monstre, qui n'est pas vu comme un imbécile, petit voleur de cagnottes et des choses comme ça, qui est un homme sincère et qui ne comprend pas pourquoi Jésus ne tient pas compte de sa popularité et ne se décide pas à prendre le pouvoir au lieu de rester toujours gentil et de guérir les malades. Et dans ce lever de rideau, Judas prend à partie Jésus. D'abord, il le voit de loin, il donne ses propres commentaires et puis il parle carrément, frontalement à Jésus, il lui dit ses quatre vérités. Donc c'est quelque chose de très nouveau, à la fois pour le musical et pour le traitement de ce sujet aussi. Mais il est certain que c'est quand même un opéra rock qu'on ne peut pas contourner.
Alors, on est un peu au milieu de l'histoire de l'opéra rock parce que Jésus-Christ Superstar, au départ, c'est un concept album qui est ensuite adapté au théâtre à Broadway par Tom O'Horgan et qui sera ensuite monté à Londres. Et je crois que la version à New York, c'est ce que j'ai appris, a complètement déplu Andrew Lloyd Webber. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la version à Broadway, première avec Ben Vereen de Jésus-Christ Superstar?
La mise en scène était trop à la fois tape à l'œil et cherchait une sorte de confirmation des traditions. Il ne pouvait pas y avoir de tradition. Donc pour empêcher ce côté-là, on développe des vulgarités, des choses qui vont dans le sens du scandale. Alors, ce n'était pas un ouvrage qui voulait être scandaleux, mais le metteur en scène, décorateur, chorégraphe, en ont fait quelque chose qu'ils pensaient adapter à un nouveau public, ce qui était vrai quelque part. Mais c'est tout de même un grand opéra rock parce que les scènes qui valent la peine, c'est-à-dire les scènes entre Judas, le Christ, Ponce Pilate, ce sont des numéros qui pourraient être beaucoup mieux traités dans un ouvrage plus lyrique. Ensuite, il y a une nouvelle mise en scène. Une nouvelle mise en scène pour Londres qui, elle, était beaucoup plus stylée et donc qui correspondait mieux au caractère de l'ouvrage, lui donnait une noblesse.
Alors Tom Morgan était le metteur en scène à New York de Jésus-Christ Superstar. Il va mettre en scène à Paris quelque chose que tout le monde connaît. En 79, c'est lui qui met en scène Starmania. Est-ce que c'est le premier opéra rock? Alors, vous citez Michel Berger et vous vous moquez un peu de lui, parce que lui, il dit que c'est un opéra rock, et vous vous dites, mais non, Starmania, bah, je ne sais pas, alors c'est un opéra rock ou pas, Starmania?
Malgré tout, oui. Ouais. Malgré ses contraintes, malgré les hésitations, malgré les prétentions, oui, ça l'est indiscutablement, surtout pour notre pays et pour l'Europe de l'Est. Vis-à-vis des pays anglo-saxons, c'est différent. Parce que c'est une histoire qui est traitée en aplats, scène après scène, des scènes fermées. Michel Berger et Plamondon n'avaient pas l'intention d'ailleurs de faire des scènes en récitatif ou des choses comme ça. En plus, Michel Berger était un excellent compositeur, je le dis dans le livre, un grand auteur de chansons, c'est évident. Vous dites, je me moque de lui, j'espère que non, j'espère que c'est pas
gentiment. Ce vous parce citez que... et vous désamorcez un peu ce qu'il
côté,
disait.
Oui, c'était drôle qu'un musicien qui veut écrire dans la musique de théâtre et qui dit, mais je fais du populaire. Et ça, c'est toujours assez étonnant. On a aucun musicien classique travaillant pour le théâtre, que ce soit même Offenbach, ne pouvait pas dire, moi, je vais travailler dans le populaire. On travaille, on donne le maximum. Mais si on prétend aller dans l'opéra, il faut s'en donner les moyens.
Alors, il y a tous les éléments des opéras rock dans Starmania. Il y a un monde futuriste, la dictature, les attentats, un gourou écologique. Il y a même un travesti, Sadia, éprise de Johnny Rockford. Pourquoi vous avez choisi le titre de Sadia?
Parce que c'est une des scènes qui me semble les plus réussies. C'est une véritable scène de théâtre qui présente un personnage très difficile, ambigu,
Qui va changer de bord. Hein. Elle était amie avec Johnny Rockford, elle va s'allier avec le dictateur 0 janvier.
Oui, j'espère que dans la nouvelle version, ce sera un homme et non pas une femme, comme c'est le cas presque tout le temps. Ça, c'est dommage. J'en parle en connaissance de cause parce que je le cite dans le livre. J'ai souvent vu en examen, j'ai vu des jeunes gens le jouer en travesti, réellement. Et c'est bien plus extraordinaire quand c'est un garçon qui fait Sadia.
En 79, c'est Nanette Workman, une femme qui jouait Sadia.
Mais qui avait une formation américaine.
Dans Starmania.
Regarde-moi ce chevelure. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
There are chicks just ripe for some kissing, and I mean to kiss me a few. Man, those chicks don't know what they're missing. I got a lot of living to do. Sizzling steaks all ready for tasting, and there's Cadillacs all shiny and new. Gotta move, 'cause time is a-wasting. There's such a lot of living to do.
There are men of 19 or 20 who are suave and reckless and true. Older men who give a girl plenty. I've got a lot of living to do.
There's music to play, places to go, people to see, everything for you and me. Crazy clothes and motorboat races. To play, places to go, people to see, everything for you and me.
Boys, if only you know it, and it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. Oh, we got a lot of living, such a lot of living.
Gellery, auteur de cet essai opéra rock, mensonge et vérité, et l'invité de la 42e rue aujourd'hui sur France Musique. Alors là, vous avez choisi, c'est pas un opéra rock, vous m'avez dit, un spectacle qui s'appelle Bye Bye Birdie, qui pastiche l'histoire d'Elvis Presley, c'est en 1960. Pourquoi c'est important, cette œuvre à Broadway ?
C'est important parce que c'est l'une, sinon la première fois, où la rock music entre dans un grand musical classique, traditionnel, pour le public habituel. Mais la raison est simple, c'est parce que le sujet le justifie. C'est une satire d'une petite ville américaine. Le jour où une idole du genre Elvis Presley va partir à l'armée, et donc il y a un concours, et ça mobilise tout le monde dans la petite ville, et automatiquement, avec l'arrivée de ce personnage, c'est la rock music qui entre dans un côté plus traditionnel, plus musical traditionnel. Alors les chansons de ce fameux chanteur de rock sont évidemment des parodies, mais malgré tout, des parodies, c'est peut-être pas le terme. Si j'y parodie...
Des pastiches.
Oui, on peut croire que c'est tout à fait des chansons pour Elvis, tout à fait. Et le numéro qu'on vient d'entendre, qui est un appel à la danse, et garde ce côté déjà un peu bebop, qui était juste de l'époque, 1960, mais qui n'existait pas dans un musical traditionnel, dans un grand musical de série A on Broadway.
Comment s'est reçue cette guitare électrique dans l'orchestre à Broadway pour la première fois ?
Très bien, parce que ça ne choque personne. On sait bien que c'est satirique. Et que ça n'empêche pas, il y a l'orchestre complet naturellement, surtout à l'époque. C'est un ouvrage qui peut plaire aux personnes âgées, aux enfants. C'est très, très, très complet.
Alors, ce n'était pas la première fois, si je comprends bien, que la musique populaire entrait dans un théâtre à Broadway. Vous nous avez choisi quelque chose que je ne connaissais pas. Un ragtime signé Sigmund Romberg. On connaît Sigmund Romberg parce que c'était quand même le roi de l'opérette autrichienne à Broadway. Et voilà qu'en 1913, il compose un ragtime. Qu'est-ce que c'est que ce titre, Leg of Mutton, qu'on va entendre ?
la danse du gigot de mouton.
Oui.
Alors, Bromberg, en effet, avait une formation classique et il venait de l'opérette viennoise. Il faisait partie des nombreux maîtres de l'opérette viennoise qui ont réussi à Broadway. Pas tous, mais la plupart ont réussi. Broadway, Londres et même Hollywood. Dans la biographie de Bromberg en 1954, Deep in My Heart, au fond de mon cœur, la MGM...
Qui est un film. L'adaptation...
Qui est un biopic.
Un biopic, voilà.
Sur...
biographie filmée.
Voilà, sur Sigmund Bromberg, interprété par José Ferrer. Et c'est là qu'on fait entendre au public et qu'on lui montre comment un compositeur de formation classique s'est risqué. Un ragtime, tous ont écrit des ragtime, absolument tous. Ceux qui étaient nés aux États-Unis, ceux qui étaient nés en Europe, ceux qui avaient une formation musicale complète, ceux qui n'avaient pas de formation musicale. Tous ont traité le ragtime parce que c'est la base de la danse conviviale qui donnera le jazz, bon, point de vue danse. Et la scène que nous allons entendre est tirée directement du film. José Ferrer interprète Sigmund Bromberg au piano, il joue lui-même du piano, et Hélène Traubel, la grande cantatrice du Metropolitan Opera, la spécialiste de Wagner, a été mise à la porte par Rudolf Bing, le directeur, parce qu'elle fréquentait trop Broadway, Hollywood et les cabarets. Et en effet, c'est ce qu'elle fait dans Deep in My Heart, où elle interprète Anna Müller, qui a bichonné, qui a protégé Sigmund Bromberg à ses débuts à Broadway. Et elle arrive dans la pièce où il répète au piano, et dit « Mais Romy, tu es en avance, mais tu as écrit un ragtime. Rejoue-le-moi, et ils mettent des paroles dessus. » Et ils dansent tous les deux. C'est-à-dire que la grande Wagnerienne et José Ferrer dansent ensemble et chantent. Et c'est une scène absolument délicieuse, et c'est une scène finalement intéressante d'un point de vue historique. On entend pour la première fois un ragtime écrit par un musicien d'origine viennoise.
Extrait du film Deep in My Heart de Stanley Donen en 1954.
Romy, you came so early.
Uh-huh.
You are tuning the piano?
Mm-mm.
Sigmund.
Is it hotsy totsy, Anna? Am I gazing at the music? Am I pulling down my vest?
You have words!
Right from Mr. Berryson's mouth.
So give me a listen!
You jazz to the left, then you jazz to the right, then you tickle your toe. You tickle your toe, and then you go into a bunny hug. Hold her tight as a bug in a rug. And then you step on the tack like your ball in the jack with the grizzly bear in your stance. And if you be my honey lamb, we can yammy yam the leg of mutton dance.
Oh, it's wonderful. And so Broadway.
Yes, but what does it mean? I don't understand one word.
Ach, what does that matter? Play it again, and this time from the beginning.
There is a dance they do way out in Kalamazoo. It's a pimp, lots of zip. It is a breezy brew. It's so easy you can learn to do it too. You jazz to the left, then you jazz to the right, then you tickle your toe, and then you go into a bunny hug. Hold it tight as a bug in a rug, and then you step on a tack like you're balling the jack with a grizzly bear in your stance. And if you be my honey lamb,
we can yammy yam the leg of mutton dance. Tanzen Sie?
Ja, gewiss!
Rund und rund es geht. So.
Thank you. every ball in the jack.
Ready, rag.
A cog in motion, well, that's the notion of Henry Ford. One man tightens and one man ratchets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction.
A genuflection to Henry Ford. Hallelujah! Praise the maker of the Model T.
Speed up the belt, speed up the belt, Sam. Speed up the belt, Sam. Speed up the belt, speed up the belt, Sam.
Speed up the, speed up the, speed up the, speed up the belt. Sam's production will sweep the nation. A simple notion, the world's reward.
Even people who ain't too clever can learn to tighten a nut forever. Attach one pedal or pull one lever.
Henry Ford. Henry Ford.
On reste dans le ragtime avec Gellery qui programme aujourd'hui 42e rue. Et cet extrait de Ragtime, cette comédie musicale des années 1990, signée Lina Rein, Stephen Flaherty. Pourquoi vous avez choisi ce morceau avec Brian Stokes Mitchell?
Je l'avais choisi en dehors de Deep in My Heart, le numéro précédent. Mais finalement, c'est une continuité. Nous avons entendu le premier ragtime de Romberg. Et puis là, c'est le ragtime un musical de notre époque, un musical historique, d'après le roman de Dr. Hoff, qui parle d'une saga de trois familles différentes, d'origines différentes, et qui nous raconte New York de 1900 à 1914, le départ de la guerre. Alors, ça n'a rien à voir avec l'opéra rock, hein, c'est certain. Mais c'était amusant de voir comment le ragtime de simple divertissement peut aussi être incorporé dans la musique de théâtre. Dans ce qu'on vient d'entendre, il y a deux scènes qui se succèdent. Il y a la scène de Harlem, où l'un des personnages doit séduire absolument l'amour de sa vie, mais il a des hésitations, et tous les gens du quartier essayent de lui dire « Non, ça va être, ne t'inquiète pas, tu réussiras ». Et tout de suite après, un autre ragtime s'enchaîne. Cette fois, c'est l'usine Henry Ford, où le personnage va arriver à s'offrir un Model T. Le dernier cri des voitures Ford. Et donc là, ancêtre du jazz, et donc ancêtre aussi de la musique rock quelque part, le ragtime, utilisé, là il y a tout le chorus de ragtime sur scène, c'est une façon d'utiliser le ragtime d'une manière dramaturgique et non pas simplement divertissement.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Si je résume votre essai, enfin résumé, votre gros essai, Gellerie, de l'histoire des opéras rock, en fait, les opéras rock, ce sont des histoires qui s'accompagnent de chansons, de descriptions musicales, mais sans faire chanter les personnages. Vous avez aussi des ouvrages où le personnage principal chante tous les rôles. On se rappelle de Johnny Hallyday dans Hamlet, opéra rock. Et puis, il y a aussi des œuvres où les chansons closes s'égrènent du début à la fin, traitant l'histoire par allusion. C'était un peu Starmania, comme vous nous en parliez. Alors, vous égrenez tous les ouvrages, The Wall, les Pink Floyd, David Bowie, d'ailleurs, Ascension et chute de Ziggy Stardust et Les Araignées de Mars en 72, c'était déjà un opéra rock. Mais il y en a un que je connaissais pas du tout, qui s'appelle La Guerre des Mondes, qui est raconté, narré par Richard Burton. Qu'est-ce que c'était cet ouvrage qui apparemment est connu dans le monde entier, sauf en France ?
Pas seulement en France, il y a pas mal de pays qui l'ignorent. Ça fait partie de ces shows de dimension colossale qui ne sont pas montés d'une manière traditionnelle. Ce sont toujours des tournées et à durée limitée. Pour une fois, un roman très important, le roman d'Edgar George Wells, est traité intégralement et d'une manière complètement lyrique. Complètement. Et où la rock music est très importante et prédomine, mais Jeff Wayne, l'auteur, est capable de traiter tous les genres, tous les styles et de tout utiliser. Il ne se pose pas la question de savoir si ça va être populaire ou pas populaire. Il fait de la musique et il fait du théâtre. Il le fait à fond. Et tous les grands numéros effrayants qu'il y a dans le roman, les catastrophes, les gens d'autres planètes, etc., les menaces sur la Terre, tout cela doit être traité sur scène, parce que c'est traité dans la musique aussi.
Alors dans La Guerre des Mondes, il y a un narrateur, c'est un journaliste qui raconte toute l'histoire. On va entendre un extrait avec la voix de Richard Burton, une chanson intitulée « Autumn Fever ».
For 3 days, I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder. Now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away.
Population panicked and ran, and I was swept along with them. aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.
Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away.
Un extrait de cette découverte que j'ai fait grâce à votre ouvrage, Hellery, dans votre livre Opéra Rock, Mensonges et Vérité. Ce concept album, cette comédie musicale, cet opéra rock, inspiré de la guerre des mondes, c'était Autumn Fever par Justin Hayward, une chanson signée Jeff Wayne. Alors en fait, vous appelez ça opéra rock, mais là, ça rock pas vraiment. Hein.
L'opéra rock ne doit pas rocker tout le temps.
Ouais.
Lorsque vous écrivez un album de rock, pour un groupe de rock, il y aura tout autant des chansons sentimentales, des ballades, des choses très douces, d'inspirations très diverses. Il peut y avoir de la musique celtique, il peut y avoir la folk country, il peut y avoir de la pop aussi. Heureusement que lorsqu'on dit opéra rock, ça ne veut pas dire qu'on va faire du bruit pendant 3 heures.
Alors vous êtes très sévère dans votre livre, et on ne va pas passer 2 heures dessus, sur tous les opéras rock à la française, style Mozart, l'opéra rock, que vous aimez un peu plus que tous les autres. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces ouvrages qui ont cartonné au Palais des Sports ?
Oh, ils n'ont pas tous cartonné.
Oui.
Certains n'ont pas cartonné. Écoutez, je voudrais bien dire des choses plus positives. D'ailleurs, dès que je peux le faire, je le fais. Parce que même dans les ouvrages franco-pop-genre, il y a des choses intéressantes.
Franco-pop-genre, c'est comme ça que vous appelez vous.
Ce sont les Allemands qui l'appellent comme ça.
Les spectacles musicaux.
On pense
français.
Que c'est moi qui l'ai créé, mais non. Franco-pop-genre, c'est ce que disent les Allemands. Et moi, je l'ai repris parce que je trouve que ça correspond tout à fait. C'est un musical français de nature plutôt populaire et qui n'a pas besoin de respecter toutes les traditions du théâtre lyrique, voilà, qui prend des libertés. Mais j'essaie de mettre en valeur les qualités de chacun, parce qu'il y a des gens de qualité, notamment sur scène, qui méritent d'être défendus.
Alors, vous comparez notamment Mozart, l'opéra rock, avec une comédie musicale, un opéra rock allemand, qui s'appelle Mozart. Son auteur est Michael Kunze. Alors déjà, vous montrez très clairement qu'il y en a un qui a fait des vraies recherches sur la vie de Mozart et l'autre qui s'est juste inspiré d'Amadeus, le film de Milos Forman. Et ce Michael Kunze est très important. En fait, alors c'est vraiment un Allemand qui n'a jamais traversé les frontières. Un de ses plus grands succès s'appelle Elisabeth. Et vous consacrez tout un chapitre à Elisabeth, cet opéra rock autour de Sissi. Pourquoi consacrer un chapitre entier à cette œuvre ?
Parce que c'est probablement l'un des exemples les plus réussis du genre. C'est à la fois un musical extrêmement moderne, qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait auparavant, et en même temps, qui ose un concept.
Et le concept, c'est le point de vue, en fait, très original, et un peu scandaleux.
Le concept a fait scandale, c'est certain. C'est la vie de Sissi, mais vue par Luigi Lucchini, son assassin, qui est contraint de revenir en arrière pour trouver une motivation à cet assassinat. Et il ne veut absolument pas fournir quoi que ce soit comme explication, sauf le fait que c'est une histoire d'amour entre la mort et Elisabeth, et on ne doit pas voir les choses plus loin. En fait, il va présenter au public toute l'époque qui entoure Elisabeth et essayer de démontrer qu'il a raison. Or, il a un ennemi, c'est Der Tod, la mort. Mais la mort, c'est masculin pour l'Allemagne. C'est donc un homme. Et ça fait 2 leading ténors dans la pièce, 2 leading ténors ennemis mortels d'Elisabeth. Et tout est traité sous forme opéra rock et les auteurs n'ont eu peur de rien. Ils utilisent absolument toutes les formules, toutes les techniques, y compris de la musique classique. Mais il y a une force.
En tout cas, on est très loin de Sissi par Romy Schneider. Vous nous avez choisi un extrait d'Elisabeth. On est à quel moment? À la fin du premier acte?
C'est la toute fin du premier acte,
oui,
au moment où Franz Joseph, le mari, fait amende honorable. Il vient retrouver Elisabeth pour lui expliquer que maintenant, elle est entièrement libre. Et juste avant l'arrivée de Franz Joseph, il y a un discours entre la comtesse Esterházy, qui était la première dame d'honneur, et les femmes de chambre. Sur un récitatif de nature plutôt rock. Et elles disent, elle est gentille, mais elle devient insupportable, on ne peut plus la voir, on ne peut plus l'approcher, elle ne veut pas voir les gens, elle est complètement renfermée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et sur ce, le Franz Joseph arrive. Et sur l'air principal, l'air Ich gehöre nur mir, je ne n'ai confiance qu'en moi, qui est le grand air d'Elisabeth dans cet ouvrage, sur cette même mélodie, Franz Joseph lui explique quelles sont les nouvelles règles qu'il lui accorde dans la vie. Mais c'est trop tard. Brusquement, elle sort de la lumière de la chambre et elle porte la robe du portrait de Winterhalter, la robe blanche avec les étoiles de diamants. Systématiquement, le public applaudit, d'ailleurs. Et elle rechante son air, mais cette fois, elle ne se parle pas à elle-même, elle lui parle à lui. Elle lui dit « Tu peux faire ce que tu veux, je n'ai confiance qu'en moi, c'est moi qui décide de ma vie. » Et dans la version choisie, qui est la version live à Vienne en 2005, on entend un petit peu les deux leading ténors. On les entend tout à fait à la fin en effet d'écho avec Elisabeth. Ce ne sont pas les parties les plus dures. Il y a des parties rock beaucoup plus violentes, concernant notamment les deux leading ténors qui sont toujours en conflit.
Die Kaiserin ist schon im Bad. Senkt euren Blick, wenn ihr euch naht. Und gießt behutsam und gemach heiße Milch nach und nach in die Wanne. Sind ihre Tücher parfümiert? Und die Creme ist das Shampoo schon angerührt?
Na, zapp zuerst den Cognac, dann das Ei. Auf jedes Glas jeweils drei.
So verlangt sie es. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, Hände pflegen und erfrischen, dann sich in die Schatz intrigen einzumischen. Auch die Erzherzogin findet das sehr vernünftig.
Das Erdbeermus ist für die Haut. Ich fang schon an, sie zu massieren. Für den Tarn das Sauerkraut. Man muss die Brauen retuschieren. Hier kommt das Kalbfleisch fürs Gesicht. Linkes in dicker Schicht auf die Wangen.
Das Rosenwasser wunderbar.
Das Stunden muss man tief frisieren.
Das macht die Augen hell und klar.
Sie lässt sich täglich Maniküre.
Der Fleischsaft, den sie mittags trinkt, muss bitte
so unbedingt vom Filet sein.
Unsere Kaiserin soll sich wiegen.
Wo ist die Kaiserin? Ich muss sie sprechen.
Sie hat ihre Toilette noch nicht beendet, Majestät. Aber sie können mit ihr sprechen. Sie kann sie hören.
Ich will dir nur sagen, ich geh auf dein Schreiben ein. Ich kann nicht ertragen, von dir nicht geliebt zu sein. Was immer du willst, ich geb es dir, bevor ich dich verlieh. Ab jetzt sollst du sein, die Rudolf zum Mann erzieht, anstatt meiner Mutter. Bestimmst du, was hier geschieht? Sie steht nicht mehr zwischen dir und mir, denn ich gehöre nur dir. Ich herrsche und lenke, bezwing das Gefühl. Gefühl ist verboten für mich. Doch wenn ich an dich denke, schweigt jedes Kalkül. Ich werde mir untreu für dich.
Ich will mit dir gehen, doch sperr mich nicht länger ein. Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn ich gehöre nur mir. Soll ich dir
was heute stehen, das Auge sieht, ist morgen schon Vergangenheit. Wohin dein Blick auch flieht, auf meiner Seite ist die Zeit.
Extrait d'Elisabeth, l'opéra rock de Michael Kunze et Sylvester Livey. C'était l'empereur Franz Joseph, la mort, l'assassin de Sissi et Sissi elle-même, interprétée par Maya Arkwart, Serkan Kaya, Mate Kamaras et André Bauer. Dans cet enregistrement à Vienne que vous nous avez apporté, Gelry, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler d'opéra rock.
Merci, ça m'a paru beaucoup plus rapide que je ne le pensais.
On aurait pu en faire une deuxième émission, vous reviendrez, promis. En tout cas, votre essai, formidable, Opéra Rock, Mensonges et Vérité, est paru chez Bellon Éditions. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la programmation de l'émission, quelques vidéos marquantes d'Opéra Rock. Vous pouvez podcaster, télécharger 42e rue sur le site, l'application Radio France et tous les sites de musique en ligne. On se retrouve dimanche prochain en direct du Carreau du Temple pour un nouveau cabaret 42e rue. Je recevrai la troupe de la nouvelle production de West Side Story qui sera très bientôt à l'affiche à l'Opéra National du Rhin. Vous le savez, vous pouvez réserver sur Maison de la Radio et de la Musique.fr, mais si jamais c'est complet, venez quand même directement au Carreau du Temple, parce qu'il reste toujours quelques places par-ci, par-là. Merci à Romain Couturier de la Discothèque de Radio France, à Martine Moni qui m'a aidé à préparer cette émission, à Tahar Bouklifa à la technique et Céline Parfenoff à la réalisation. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.